Le mardi 9 juillet était une journée chargée pour la commune de Terrasson puisqu'elle avait l'honneur de recevoir la visite de Monsieur Germinal Perrault, président du conseil départemental de Dordogne, pour mettre en lumière trois acteurs importants du territoire. Dans un premier temps, rendez-vous à la caserne des pompiers. Celle-ci a été dotée récemment de nouveaux camions pour faire face au risque d'incendie et l'équipe sera bientôt renforcée de deux pompiers professionnels supplémentaires. Puis, il y a eu la visite de l'incontournable usine de chocolat Bovetti et leur lutte pour une production écologique et responsable. Et enfin, pour terminer la journée, l'inauguration des nouveaux locaux du centre médico-social, des locaux neufs, adaptés aux personnes à mobilité réduite et plus fonctionnels pour le personnel occupant. Vous n'avez pas pu y échapper. Ces dernières années, les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir sur l'ensemble du territoire français. L'augmentation des températures moyennes, les épisodes de sécheresse qui se prolongent et la diminution des précipitations durant certaines périodes de l'année modifient profondément notre environnement. Ce qui relevait autrefois de situations exceptionnelles deviennent progressivement une nouvelle réalité à laquelle les collectivités, les habitants et les services de secours doivent s'adapter. Et surtout, la Dordogne ne fait pas exception. 110 départs de feu ont été comptabilisés dans la région depuis le 1er juillet. 9 départs de feu sur 10 sont dus à l'activité humaine. Face à ces nouveaux risques, les dispositifs de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies ont dû être renforcés afin de protéger les populations, les espaces naturels et les infrastructures. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes rendus à la caserne des sapeurs-pompiers de Terrasson. Nous avons pu échanger avec deux acteurs directement concernés par ces enjeux. Dans un premier temps, avec M. Perrault, président du conseil départemental, afin d'évoquer les actions mises en œuvre par le département pour accompagner les services de secours et renforcer la prévention face au risque d'incendie. Puis, avec le lieutenant Larue, sapeur-pompier volontaire de la caserne de Terrasson, qui nous a partagé les évolutions qu'il constate au fil des années et les défis auxquels les équipes sont désormais confrontées dans un contexte de changement climatique. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de venir faire visiter ce centre de sapeurs-pompiers ici à Terrasson ?
D'abord, en tant que président du SDIS au niveau du département, je m'attache à visiter régulièrement la totalité des centres. Mais il y a déjà quelques temps que je n'étais pas venu à Terrasson et en vérité, je viens me rassurer et je viens aussi vérifier que les centres sont équipés en moyens à la fois humains et matériels de façon à défendre au mieux la population. Et c'est vraiment le cas à Terrasson. D'ailleurs, nous avons des pompiers professionnels ici, il y en a 7. Bientôt, il y en aura 2. Je le dis, à la fin de mon mandat, on aura recruté 31 pompiers professionnels supplémentaires en Dordogne. On en aura mis 2 par centre. Où il y en avait 7, on va passer à 9. Mais vous avez ici une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qui préparent la relève. Hein. C'est de la formation, c'est de l'éducation. Et vous avez 60 pompiers volontaires ici, autour de ce centre-là, ce qui fait une masse importante. Et quelque chose que je veux souligner, c'est que sur les 60, il y en a quasiment la moitié qui a eu une convention. Vous savez que les volontaires, ils peuvent être conventionnés, leur employeur peut conventionner avec le SDID de façon à ce qu'ils soient libérés. Il y en a 9 exactement qui sont en convention avec des organismes publics, la mairie par exemple, hein, le monsieur qui nous reçoit aujourd'hui, l'employé à la mairie. Mais il y en a 15 qui viennent d'entreprises. Et ça c'est important parce que ça montre que dans le Terrassonnais, il n'y a plus d'entreprises et que les dirigeants d'entreprise acceptent qu'un de leurs employés puisse être appelé, quitter son poste de travail pour aller secourir la population. Donc c'est très important. Et ce centre de Terrasson, il est très bien doté en matériel. On a eu une aide de l'État depuis 2023, très importante, qui nous a accordé à la Dordogne 5 millions d'euros, à condition qu'on mette nous-mêmes, que le SDIS mette 5 millions d'euros aussi pour acheter le matériel. Alors forcément, on n'a pas mis 10 millions de la première, une seule année, on l'étale, mais aujourd'hui, vous voyez, il y a deux camions tout neufs qui sont en feu de forêt, là, qui sont vraiment très très beaux, et puis un autre matériel de défense qui, lui, est arrivé l'année dernière. Donc aujourd'hui, pour moi, le président, je vous dis, je suis heureux de venir d'abord à la rencontre des sapeurs-pompiers et de voir l'engouement de ces femmes, de ces hommes qui sont là pour défendre les biens et les personnes dans notre département. Mais je vous le dis, je viens aussi me rassurer et je sais que vous avez ici un centre vraiment très très bien organisé qui va des feux de forêt, qui va aux feux urbains, qui va prémunir les gens, bon, bien sûr, en cas d'accident de la route, bien évidemment, mais qui a une mention un peu spéciale ici avec les inondations. Cette année, Terrasson a été inondé 3 fois et il y a des gens formés, des plongeurs qui sont formés pour aller dans l'eau, pour aller secourir des gens et aussi pour apporter une aide aux gens qui n'ont pas voulu partir. Vous avez des personnes âgées, par exemple, qui habitent au premier étage et qui savent que l'eau ne montera pas au premier étage. Donc, elles veulent rester chez elles. Un jour, ça va, mais au bout de 2 jours, si elles ont besoin de soins, si elles ont besoin de portage de repas, etc., etc., qui le fait ? Eh bien, ce sont les pompiers que l'on appelle parce qu'ils sont aptes à aller sur l'eau ou dans l'eau pour secourir les gens et apporter ce qui est nécessaire.
Et donc, ce choix d'engager 31 pompiers en plus dans la Dordogne, est-ce que c'est parce que vous considérez qu'il y a un manque de personnel dans les casernes de pompiers, ou est-ce que c'est en réponse au risque accru de catastrophes naturelles, donc les feux de forêt ou les inondations en hiver ?
C'est les deux. C'est d'abord pour donner des conditions de travail meilleures à l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Dordogne. Il y en a 11 centres. La plupart en avaient 7, donc on leur en met 2 de plus. Mais vous aviez un centre au Bugue qui en avait 4, donc là on va en apporter 5, ou 4 plus le chef de centre. Et puis vous aviez un endroit où il n'y en avait pas du tout, c'était à Thiviers. Et sur la carte de la Dordogne, il manquait un centre de pompiers professionnels dans le nord-est du département, et j'ai décidé qu'on allait doter Thiviers de professionnels. Donc c'est à la fois pour mieux répartir nos forces professionnelles, c'est à la fois pour leur donner plus de possibilités de travailler, les rendre plus opérationnels. Et puis, il ne faut pas oublier que les professionnels, ils ont aussi une fonction d'encadrement sur les volontaires. Donc, quand vous avez un centre professionnel, en général, le nombre de volontaires croît et on assure une formation permanente, etc., etc. En vérité, on a fait ce choix d'abord d'investir sur le plan matériel et d'investir sur le plan humain pour mieux assurer la sécurité des habitants de la Dordogne. Moi, mon rôle en tant que président du département, c'est de prendre soin des habitants de la Dordogne, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des jeunes, prendre soin de l'emploi et prendre soin de la sécurité et de la santé des habitants de la Dordogne. Et ces mesures-là, elles sont faites pour prendre soin des Périgourdins.
Et donc ce choix de rajouter des pompiers dans les casernes, il a été fait parce que ça a été demandé par les casernes, oui, ou parce que délibérément vous avez décidé d'en rajouter ?
C'est les deux. C'est à la fois pour répondre à un besoin, à une demande des sapeurs-pompiers professionnels qui ont besoin d'être renforcés. Eux, ils nous font toujours remonter des demandes, vous avez bien vu. Et il y a toujours des choses à faire, etc. Et c'est tout à fait normal. Mais il y avait aussi la volonté politique, la mienne, et puis celle de la majorité départementale, en disant, nous, on veut mieux prendre soin des Périgourdins, il faut absolument augmenter ce qu'on peut faire pour leur santé, pour leur sécurité, mais aussi pour leur emploi, leur habitat, etc., bien sûr. Mais c'est dans cet esprit-là, c'est mieux protéger les Périgourdins, c'est pour ça que l'on a fait ces choix.
Et est-ce que, pour prévenir des feux de forêt, est-ce que vous avez prévu une campagne de prévention, donc, pour alerter la population, alors, pour les mettre au courant des risques et des gestes à adopter en cas de feu ?
Alors, régulièrement, sur les ondes de radio ou à la télévision, il y a des appels au niveau national. Mais moi, je lance un appel aussi au niveau de la Dordogne. Faisons attention, là aussi, prenons soin de nos forêts et prenons soin de notre propre sécurité. Il y a un feu qui a démarré à Dôme parce que quelqu'un faisait brûler des broussailles dans son jardin hier ou avant-hier, c'est pas tolérable. Un autre feu a démarré parce que quelqu'un n'a pas maîtrisé un barbecue. Aujourd'hui, quand il fait 40 degrés, on ne fait pas de barbecue. Parce qu'on sait très bien que de son jardin, ça peut s'échapper immédiatement. Donc il faut être extrêmement prudent. Et si j'ai un appel à lancer à la population périgourdine, attention, la plupart des feux démarrent avec l'humain, par une faute humaine. C'est un mégot que l'on a jeté, c'est un feu qu'on n'a pas maîtrisé, c'est des choses comme ça. Donc il faut vraiment qu'on prenne soin les uns des autres. Et qu'on prenne le soin à la fois de la nature et de la planète. Donc soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents et ne faites pas d'imprudence.
Bonjour, je suis lieutenant de la rue Olivier, je suis pompier volontaire à Terrasson, je suis l'adjoint au chef de centre.
Alors, tout à l'heure, Monsieur Perrault a indiqué que l'année prochaine, vous allez accueillir plutôt 2 pompiers supplémentaires dans la caserne de Terrasson. Qu'est-ce que pour vous, cet effectif supplémentaire, ça représente ?
Mais pour nous, aujourd'hui, on assure des gardes de 9 heures avec des pompiers professionnels et complétés par des volontaires de 8 heures à 17 heures. Et l'avantage de pouvoir passer avec 2 pompiers professionnels, nous allons l'ont passé en 12 heures. Et aujourd'hui, les points noirs du centre de secours de Terrasson, ce sont les horaires par rapport aux volontaires qui de 7h à 8h et de 17h à 19h. Donc demain, quand on aura ces deux pompiers professionnels, on pourra assurer beaucoup plus les secours pendant 12 heures, de 7h à 19h.
Est-ce que vous considérez que, en tant que caserne de sapeurs-pompiers, vous êtes plutôt bien équipé ou en tout cas assez préparé pour les éventuels feux de forêt qui pourraient se déclarer dans la région?
Alors oui, aujourd'hui à Terrasson, on a enfin réussi à avoir une unité feux de forêt. Donc on a du matériel qui est tout neuf, qui a été livré par le pack capacitaire au niveau national. Donc on a deux CCF tout neufs et une véhicule de reconnaissance. Donc on a ce qu'il faut en moyen matériel. Et au niveau personnel, on a ce qu'il faut, mais il ne faut pas qu'on oublie que le feu de forêt, c'est une chose, mais il faut pouvoir assurer toutes les autres interventions en plus du feu de forêt.
Dans votre réponse, vous dites enfin, c'est parce que jusqu'à récemment, vous n'étiez pas, ou en tout cas, vous considérez que vous n'étiez pas assez bien équipé?
Tout à fait, oui, parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, on souhaitait, parce que nos antécédents, on avait une unité feu de forêt à Terrasson il y a plus de 20 ans, qui nous était promis de revenir et qui, effectivement, à force de la réclamer, est arrivée. Et aujourd'hui, par rapport à l'effectif, quand on a beaucoup de moyens de personnel et par contre qu'on n'a pas les véhicules, c'était un petit peu dommage. Donc aujourd'hui, oui, on peut assurer nos deux véhicules de feu de forêt plus le véhicule de reconnaissance sans aucun souci parce qu'on a les moyens de personnel pour pouvoir le faire.
Vous considérez que la population est assez prévenue, qu'il y a assez de prévention qui est faite? Comment est-ce qu'on pourrait prévenir un peu plus la population de faire attention?
Alors après, on va pas jeter la pierre à n'importe qui, mais c'est vrai que aujourd'hui la communication, quand on voit les médias aujourd'hui qui peuvent faire, on va dire, la pluie, le beau temps, et c'est un peu dommage que avec tous ces réseaux sociaux, on n'arrive pas à faire plus de prévention sur le feu de forêt, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on va dire, 8 feux sur 10 pourraient être évités, nous, on a au niveau du SDIS 24, donc du service départemental d'incendie et secours du 24, on a un service de communication, et eux, effectivement, arrivent à faire des relais par rapport à ça. Tous les centres en interne, effectivement, même si on a des professionnels, on n'a pas de temps aujourd'hui pour mettre en place des systèmes ou de l'information là-dessus. Donc effectivement, quand on intervient ou quand on est sur des cérémonies, on en parle, mais de là à créer des réseaux, non.
Le chocolat, c'est souvent synonyme de réconfort. Pourtant, on ne sait pas souvent qu'est-ce qui se cache derrière l'industrie. Les grandes marques de distribution se gardent bien le droit de révéler la réalité derrière leurs emballages colorés. Pourtant, selon la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, l'écart de revenus vital dans le secteur du cacao s'élèverait à 10 milliards de dollars. La pauvreté des cultivateurs est à la racine de presque tous les problèmes rencontrés dans le secteur du cacao. La déforestation, le travail d'enfants, l'exploitation et les inégalités entre les femmes et les hommes. Près de 1,5 million d'enfants travaillent dans la production de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana en 2020. Et parmi eux, 95% sont exposés à des conditions de travail dangereuses, telles que l'utilisation de pesticides nocifs. Consommer du chocolat, c'est donc pas sans conséquences. Et si la solution, c'était de consommer moins, mais de consommer mieux? Évidemment, cette idée n'est pas nouvelle, mais elle est surtout le point central dans la conception des chocolats Bovetti. C'était un point d'honneur à la création de l'usine, et jusqu'ici, c'est toujours le cas. Se rendre dans les fermes, connaître précisément les lieux et les étapes de transformation des fèves de cacao, travailler avec des producteurs sur le long terme, tout cela dans le but de garantir un chocolat bio et équitable. Nous nous sommes entretenus avec Axel Herrmann, directeur général de la chocolaterie Bovetti, pour qu'il puisse nous parler un petit peu de ses convictions de l'entreprise.
On est avec notre taille et avec notre savoir-faire, on est absolument incapable d'aller se battre contre les gros industriels du chocolat. Et donc on va pas se battre sur le prix, même si on est obligé de constater qu'il peut y avoir un peu de baisse de consommation de volume. On préfère vraiment accentuer la pédagogie, expliquer d'où vient le cacao, expliquer ses origines bio et équitables, expliquer tout ça pour que le consommateur se dise « Ok, je vais acheter 5 euros une tablette de chocolat que je pourrais trouver à 3,50 en grande distribution, mais je préfère celle-là. Il est bio, je sais d'où il vient, il a été travaillé par des gens du coin. » Il n'y a pas d'enfants qui ont récolté des fèves de cacao et donc je suis serein quand j'achète cette tablette de chocolat. Donc faire beaucoup de pédagogie comme ça.
Donc vous avez insisté durant la visite et même là pendant que vous discutiez sur le fait que le chocolat était issu d'agriculture bio, d'agriculture équitable.
Oui.
Est-ce
oui.
que dans la fabrication du chocolat Bovetti, le sucre et le lait sont aussi issus d'agriculture bio et équitable ?
Oui, absolument. Ils le sont dans tous les cas. Aujourd'hui, on travaille avec du sucre de canne. Donc, qui n'est pas produit en France, mais parce que nos distributeurs, et Biocoop en particulier, qui sont des gros distributeurs, ne veulent pas travailler avec du sucre issu de la betterave. Et donc, il y a du sucre de betterave bio en France, mais aujourd'hui, on ne travaille pas avec ce sucre de betterave. On travaille avec du sucre de canne et on veille aussi à ce que le sucre de canne soit bio et équitable. Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'enfants non plus qui travaillent. Dans l'équitabilité, il y a plusieurs notions. La première notion, c'est que les enfants... C'est tabou, enfin c'est pas tabou, c'est niette, c'est pas un sujet. Mmh. Ensuite, il y a le fait que le producteur, donc le paysan, vive correctement de ce qu'on va lui acheter. Parce que ça aurait pas de sens de dire on fait des trucs super bien et par ailleurs le paysan, peu importe comment il est rémunéré. Donc ça veut dire un prix de rémunération de la matière première qui lui permet de vivre de ça. Et donc ça c'est des échanges avec les organismes qui valident la labellisation équitable. Qu'on dit fair trade. Et la troisième chose, c'est qu'on a des engagements de long terme avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de dire je t'achète ton sucre cette année ou je t'achète ta fève de cacao cette année, mais on va bosser ensemble pendant 5 ou 10 ans. Ce qui te permet d'acheter du matériel, de replanter des arbres, de te dire j'ai quelques années de sérénité devant moi. Et l'équitabilité, c'est aussi ça.
Cette journée du 9 juillet s'est terminée par un changement social majeur pour la commune de Terrasson. L'ouverture officielle des nouveaux locaux du centre médico-social. Après presque 40 ans à être installé dans le château Jeanne d'Arc, les conditions d'accueil n'étaient plus conformes aux besoins des usagers. Des locaux plus adaptés ont été construits par le département, à côté du collège Jules Ferry. Ces nouveaux locaux ont nécessité 4 ans de travaux, mais de meilleures conditions de travail sont attendues pour le personnel, notamment en vue des fortes chaleurs attendues cet été. À l'heure où les questions sociales sont souvent délaissées par les politiques, prenons exemple le risque récent de la fermeture du planning familial bordelais, le département de Dordogne prouve une nouvelle fois son engagement envers la population. Nous avons pu nous entretenir avec Monsieur Pierre Bizous, responsable de l'unité territoriale de Sarlat.
Voilà, donc je suis Pierre Bizous et je suis le responsable de l'unité territoriale de Sarlat, qui est le service qui agrège 8 centres sur tout le Périgord noir, 8 centres médico-sociaux, Hautefort, Terrasson, Tenon, Montignac, Sarlat, Saint-Cyprien, Le Bug et Belvès. Et aujourd'hui, on inaugure le nouveau local du centre médico-social de Terrasson.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, cette inauguration ?
Ça a une forte valeur symbolique parce qu'on quitte un site qui a été occupé par le département depuis les années 70. C'était un lieu qui était particulièrement identifié par la population terrassonnaise sur plusieurs générations, à plusieurs titres. D'une part parce que les caractéristiques du public terrassonnais en matière de précarité ont fort peu bougé depuis 40 ans. On retrouve les mêmes proportions de gens en difficulté, de gens salariés, de gens qui émargent sur des minima sociaux. Et d'autre part, parce que les travailleurs sociaux qui ont travaillé à Terrasson depuis les années 70 ont pour l'essentiel fait toute leur carrière à Terrasson. Ce qui veut dire qu'il y avait une, sans parler de fidélisation, mais il y avait une connaissance particulièrement forte et sur la longueur vraiment longitudinale des familles, sur parfois plusieurs générations. Là, ce qui est intéressant aujourd'hui, je disais symboliquement, c'est que ça acte une forme de rupture puisque l'équipe du CMS a été complètement recomposée il y a peu de temps. Et en intégrant ce nouveau local, ça nous permet aussi d'être plus au cœur de la ville et aussi d'acter le changement, un cap symbolique, nouvelle équipe, nouveau local, même mission, mais qu'on exerce autrement. Voilà, parce que dans l'ancien local, l'accès était... pas aussi sécurisé qu'il est ici. Il y a eu plusieurs agressions sur le centre médico-social. Donc là, aujourd'hui, on permet aux agents de travailler dans un contexte qui est complètement sécurisé. Depuis l'entrée jusqu'à la ventilation des bureaux, ou si vous avez fait attention, tous les bureaux sont communicants et permettent à un travailleur social qui serait agressé verbalement soit de s'échapper, soit la porte permet à un collègue d'intervenir directement dans le bureau.
Je remarque aussi que vous êtes aussi plus proche de la jeunesse, puisque ces nouveaux locaux sont situés juste à côté du gymnase et du collège. Oui. Donc, est-ce que c'est aussi un souhait de,
de faciliter les rapports entre les aides médico-sociales et les jeunes qui pourraient venir à l'entre-deux-cours ou à la pause du midi, sans que si les parents soient obligés de faire le transport?
Si je faisais de la politique, je vous répondrais que oui. Mais comme je n'en fais pas, je vais vous répondre qu'on a été contraint par des considérations très techniques, à savoir notamment trouver du foncier disponible pour bâtir, et que ça, il n'y avait guère que là qu'on pouvait construire. Donc oui, c'est intéressant parce qu'on est, on est proche du collège, on est proche du groupe médical, on est globalement au cœur de la ville et un peu moins excentré qu'on l'était de l'autre côté de la Vézère, un peu en hauteur, avec des problématiques d'accessibilité qui étaient... prégnante, hein, des trottoirs avec des marches, une rue en pente qui ne permettait pas à des gens à mobilité réduite de venir en autonomie. Donc là, ça vient. Le fait qu'on soit proche du gymnase et du collège, ce n'était pas notre volonté, c'est vraiment parce que par contrainte, on a trouvé que cette zone-là sur laquelle bâtir. Mais c'est d'autant plus intéressant que ça nous rapproche de la jeunesse, c'est clair.
Quelque chose qui m'a frappé, c'est... l'importance de la future ouverture de la branche de santé sexuelle, ouais. Quand on sait que à Bordeaux récemment il y a eu une menace de la fermeture du planning familial, qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment est-ce qu'on informe les jeunes de l'importance de la santé sexuelle?
Alors, sans avoir d'antenne sur le terrassonnet, les professionnels interviennent. La sage-femme de PMI, Magali Delgeret, qui a pris la parole tout à l'heure, intervient déjà dans les établissements scolaires sur des actions collectives de prévention, de sensibilisation à la vie affective et sexuelle. C'est à la faveur de ces interventions en collectif dans les établissements scolaires qu'elle rappelle à quel service elle appartient et où est-ce que les jeunes peuvent trouver désormais un lieu ressource. Alors aujourd'hui, le lieu ressource, il est à la maison du département de Sarlat. Mais je vous dis que dès janvier, il sera au centre médico-social de Terrasson. Ce sera sur rendez-vous. Mais le principe de l'anonymat et de la gratuité permettra très vite que le bouche à oreille aussi fonctionne et que les jeunes, ou moins jeunes, parce que le CSS s'adresse pas uniquement à un public jeune. Le cœur de cible, évidemment, c'est celui des populations les plus jeunes. Mais sur le CSS de Sarlat, on a eu plusieurs couples d'octogénaires qui sont venus. Donc, encore une fois, le département, il accompagne la population de la naissance à la dépendance, à tous les stades de la vie et dans toutes les difficultés que les Périgourdins peuvent rencontrer.